défi de chez nous.
Êtes-vous au courant de la situation socio-économique du Burundi?
La part de l'État dans le développement de ce secteur?
Et quel est le rôle du citoyen?
Suivez Défi de chez nous, le magazine socio-économique de la Synergie des radios.
Inzamba Agathe Kakawe, RPA Idriya Banyagihugu et la télévision Renaissance. Défi de chez nous, rendez-vous chaque dernier jeudi du mois sur nos ondes.
Défi de chez nous, bonjour à vous fidèles auditeurs de ce magazine mensuel, c'est le rendez-vous du mois de juin. Nous parlons économie. Le nouveau rapport de la Banque mondiale classe le Burundi, dernier pays pauvre au monde. Le Burundi, pourtant avec un potentiel économique inexploité ou tout simplement mal exploité, selon les analyses de certains économistes burundais. Dans ce magazine, vous aurez les avis de certains fonctionnaires que nous avons rencontrés dans les provinces d'Ngozi, Muramvya et Bujumbura, comment ils parviennent à joindre les deux bouts du mois aujourd'hui avec leurs revenus. Quelles sont les entraves à la croissance économique? Les défis du nouveau pouvoir, c'est dans cette émission. Je suis avec Inès Gakiza et Révérien Bazikamé. Bonne réception chez vous. Le Burundi est le premier pays pauvre au monde. Cela ressort du classement de la Banque mondiale, je vous l'avais bien dit, par le biais du service des statistiques de la comparaison internationale. $784, soit près d'1 400 000 francs burundais, c'est le revenu annuel par habitant. Le classement de la Banque mondiale évoque la croissance démographique comme défi principal de l'amélioration des vies en Afrique subsaharienne et pour le Burundi, le faible taux d'importation pour pouvoir générer des devises. Révérien Bazikamé a lu pour nous ce rapport de la Banque mondiale. Que faut-il retenir de ce rapport, Révérien?
Effectivement, Patrick, c'est un rapport publié au mois de mai 2020 à référence des indicateurs et des résultats de 2017. Il consiste à examiner les économies des pays et par conséquent la vie au quotidien des citoyens par rapport aux économies de leurs pays. La Banque mondiale se ressource à l'aide de ces indicateurs pour établir le seuil de pauvreté des pays par rapport à leurs économies et les pouvoirs d'achat de leurs citoyens via le programme de comparaison internationale. Dans son rapport, l'Afrique subsaharienne est la zone la plus défavorisée du monde puisque sa part dans la richesse mondiale est de 3,1%. Alors que sa population est estimée à 14,2% de la population mondiale. Sa forte croissance démographique pénalise l'amélioration de son niveau de vie, puisque son produit intérieur brut a progressé de 24,8% entre 2011 et 2017. La Banque mondiale classe le Burundi le premier pays pauvre dans le monde avec $784 américains du produit intérieur brut des citoyens par an, soit près d'1 400 000 francs burundais. Seuls 3% de la population burundaise ont les moyens pour assurer la survie, donner des familles en vivre, un logement et éducation, donner des enfants. La pauvreté atteint surtout les habitants ruraux et touche principalement les petits agriculteurs. En Afrique centrale, la Centrafrique vient en troisième position avec $937 américains pour le citoyen centrafricain parlant. Dans ce rapport, certains pays ont connu un dynamisme surprenant de leurs économies, entre autres le Rwanda et l'Éthiopie, qui affichent le taux de croissance annuel record de 8 à 10%, calculé en produit intérieur brut et classique, selon toujours le rapport. Ce classement de la Banque mondiale est fait sur 76 pays dans le monde. Voilà en gros ce que j'ai relevé de ce rapport, Patrick.
Eh bien, merci Révérien pour ce décortiquage du rapport de la Banque mondiale et de l'avis d'un expert économiste, Faustin Dikoumana, affirme que cela ne devrait pas être une surprise pour personne au regard de la gestion du pays et de la crise politique en cours au Burundi.
D'abord, il faut mettre fin à cette instabilité politique et cette mentalité de la classe politique égoïste qui est là pour régner sans gouverner, sans s'intéresser à l'intérêt général de la nation. Cette instabilité politique a coûté cher au développement de notre pays. Une classe politique qui est là pour régner, pour gérer ses intérêts, sans s'occuper des véritables défis du pays, ça veut dire les projets, les plans de développement sont là, ils restent dans le tiroir, et l'intérêt de la classe politique, qui gère le pays est ailleurs.
Faustin Ndikumana sera l'invité de ce magazine. La pauvreté du Burundi se manifeste à travers sa population elle-même. Nous nous sommes rendus à Ngozi, Muramvya et Bujumbura. Les fonctionnaires de l'État, enseignants pour la plupart, grognent. Prestant dans différents secteurs, ils disent peiner pour joindre les deux bouts du mois, malgré la révision à la hausse de leur salaire au cours de la dernière décennie.
Rien n'est surprenant d'entendre que le Burundi soit classé pays plus pauvre au monde. À titre d'exemple, aujourd'hui, les enseignants avec leur maigre salaire ne peuvent plus joindre les deux bouts du mois. Imaginez un enseignant qui gagne à la fin du mois un salaire de 500 000 et qui doit payer le loyer de 200 000 francs pour abriter sa famille composée de 3 à 5 enfants. Cela ne peut être possible que dans un quartier modeste, parfois même éloigné de l'école. Alors, à côté des frais scolaires, l'on peut parler des frais pour le déplacement, on peut parler tout ce qu'on a besoin pour la salubrité à la maison. Avec un salaire de 500 000, il est vraiment impossible de couvrir les besoins pendant 30 jours du mois. Contrairement à l'an 2005, les choses allaient encore au mieux parce que, sans chercher à payer le luxe, les fonctionnaires pouvaient joindre les deux bouts du mois.
Ils ont essayé de relever nos salaires avec l'ajustement salarial, mais le salaire reste insuffisant car les prix ont sensiblement grimpé, surtout les prix des denrées alimentaires. Par exemple, un kilogramme de la farine de manioc coûtait avant entre 300 et 400 francs. Mais actuellement, ici chez nous, en province Muramvya, le même kilogramme de farine de manioc est vendu à 900 francs burundais. Donc, l'argent qui achetait 2 ou 3 kilos n'achète maintenant qu'un seul kilogramme.
En 2005, mon salaire était indigène, mon salaire d'aujourd'hui, et couvre la satisfaction de mes besoins, tandis que aujourd'hui, en 2020, mon salaire est multiplié de 10 fois qu'en 2005, et ne couvre que 3 à 4 jours. C'est à vous de nous faire la comparaison des changes de la monnaie du dollar américain de 2005 à l'heure actuelle.
Propos recueillis par Inès Gakiza.
Défi de chez nous.
Défi de chez nous.
Vos idées et points de vue nous intéressent.
Ce rapport est véridique. La vie est difficile, on est pauvre. Si au moins les frontières étaient ouvertes, on ferait des affaires dans les pays voisins comme le Rwanda. Nous sommes dans la misère, il n'y a plus d'opportunités d'affaires. On dirait qu'il n'y a plus de gens. C'est la vérité et ça saute aux yeux. Le Burundi est le dernier dans tous les domaines. D'ailleurs, pour moi, il est en dessous de la barre et ne devrait pas être classé. Selon mes observations, il n'y a aucun domaine où le Burundi a du hopi. Il est derrière tous les pays. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'étonnant dans ce rapport, car c'est une situation que nous vivons depuis des années et apparemment, elle ne va pas changer, plutôt, elle va s'empirer. On retiendrait que tous les Burundais sont pauvres. Tout le pays est pauvre. Il n'y a plus de marché où écouler nos produits. Si tu veux vendre quelque chose pour subvenir à tes besoins, tu ne trouves pas d'acheteur parce qu'il n'y a pas d'argent. Nous sommes vraiment pauvres. Tous les Burundais sont pauvres. Tu ne peux rien vendre et avoir de l'argent. Non.
Défi de chez nous.
L'invité.
Oui, Faustin Ndikumana, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous avez suivi le dernier rapport de la Banque mondiale qui classe le Burundi pays le plus pauvre au monde. Et ceux qui croient que de tels rapports sont biaisés, vous partagez la même opinion?
Bon, je pense qu'il n'y a pas de nouveauté dans ces petits classements. Le Burundi a toujours été passé parmi les 5 pays les plus pauvres, si ce n'est pas la bande dernière, c'est le dernier. Il n'y a pas de nouveauté. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. S'il y a un de ces groupes qui a avancé plus que le Burundi, c'est tout à fait normal. Je ne vois pas vraiment une surprise par rapport à ce placement. Peut-être qu'il faut assumer, pouvoir prendre des engagements pour nous tuer des désastre de cette société qui nous rentre depuis longtemps.
Est-ce que vous observez effectivement les indicateurs de cette pauvreté au Burundi?
Normalement, bon, la pauvreté, il faut l'évaluer. Ici au Burundi, il y a une maison qui est chargée d'évaluer la pauvreté. Il y a des chiffres et des distributeurs qui sont sortis en 2014 qui ont montré l'état de la pauvreté monétaire au Burundi, l'état de la pauvreté en condition de vie, ou par exemple, 15 petites provinces, il y a plus de 10 provinces qui ont un taux de pauvreté monétaire de plus de 80% ou de plus de 75%. C'est énorme. Avec ce qu'on appelle le gap de la pauvreté et de plus de 4%. Et j'imagine que quand même, il y a des places de référence. Plutôt, on devrait continuer à évaluer l'impact de cette crise par rapport à cette place de référence de 2014 pour actualiser justement en 2020. Parce que, à partir de l'extrapolation de la Banque mondiale, et le taux de pauvreté général qui était à 70% en 2014, moyenne nationale, maintenant on extrapole même à 72, il y a plus de 72, à presque 75%. Donc, il faut des situations de référence. Et pour actualiser ces données. Et puis alors pouvoir d'abord assumer cet état des lieux. Après, alors, on devra alors faire cette introspection au niveau de la classe politique burundaise qui est censée être construite des leadership qui doit être créé des autres secteurs de la vie nationale, des autres composants de la population burundaise. Donc, avoir une stabilité politique effective. Hein? Donc, éloigner autant que faire sauter toute menace de la paix, toutes les stabilités politiques, les crises politiques répétitives qui ont coûté cher au développement de son pays. Ensuite, alors, il suffit la mobilisation des moyens. On ne peut pas exercer un programme de développement sans moyens, que ce soit au niveau intérieur, que ce soit au niveau extérieur. Normalement, le Burundi a toujours une attaque immobilière de ressources intérieures suffisantes, que ce soit au niveau de l'aide publique au développement, que ce soit au niveau des investissements directs étrangers, que ce soit au niveau même de la capacité d'accéder au marché extérieur, marché financier. Parce que même si la coopération est gérée, il faut avoir une alternative d'accéder par exemple au marché financier classique, sans oublier alors la ralentir dans l'administration des projets. Parce que même si un projet de mal, il faut des hommes compétents pour le gérer. Il faut une administration efficace. S'il y a des projets dans l'équipe de mal, ou de la banque mondiale qui passe deux semaines. Si au niveau du marché intérieur, le pouvoir d'achat est assez faible, s'il n'y a pas de diplomatie effective au service du secteur privé, ça devient un problème. Donc, pour les tertiaires, quand ils sont réunis, alors, dans un contexte de population galopante, le taux de croissance reste faible et la population qui augmente, c'est la pauvreté qui s'installe de plus belle.
Oui, Faustin, le Burundi, quand même, dispose d'un potentiel économique. Quelles sont les priorités aujourd'hui pour relever effectivement l'économie?
Le potentiel économique est là. Les programmes de développement des CSRC ont été élaborés depuis longtemps. Qu'est-ce qui manque? C'est que quelques temps, il y a des crises politiques. Je vous ai dit, le pays est développé par la classe politique qui est au pouvoir. Donc, si la classe politique, s'il y a toujours des tensions politiques, on peut le dire justement dans l'assainissement de la situation politique, au lieu de se concentrer sur les véritables défis du développement. Et il faut parvenir aussi à mobiliser les moyens. C'est ça, vous verrez, on fait un projet. Un projet devient effectif s'il parvient de mobiliser des moyens. Si on parle de mobiliser des moyens intérieurs et extérieurs, on peut être en de développement. Et aussi l'application des ressources humaines et compétences pour l'administration des projets de développement. Un projet de développement doit être évalué, doit être géré efficacement. Reste alors, c'est la condition. Il faut qu'on passe, c'est le climat, l'enrichissement ici. Effectivement, de donner, de créer un environnement favorable au secteur privé. Il n'y a pas de pays qui se développe sans développement du secteur privé. C'est le secteur privé qui est à la base de tout le monde. Mais quand il est perturbé ici et là, car l'administration gêne le secteur privé, vous comprendrez comment il faut avoir le développement. Alors, tenez-nous aujourd'hui, cette capacité d'investissement et à calculer des hauts fréquentés de même des travaux humains qui n'est pas là, la population est dans une situation où elle n'est pas capable justement de d'initier des activités d'autopromotion.
Oui, Faustin Dikoumana, je rappelle que vous êtes aussi le président de l'association Parole et Action pour le Réveil des Consciences. Parfait, merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Eh bien, voilà, Faustin Dikoumana était l'invité du magazine En Synergie, Défi de chez nous. Et c'est sur ces propos que je vais pouvoir clôturer ce magazine du mois de juin. Merci à mes collègues Guinée Sigakiza et Révérien Bazikamwe avec qui nous avons coproduit cette émission. Bien merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.
C'était le magazine Défi de chez nous, produit par la Synergie des médias
RPA, Idwidia Wanyagihugu, Inzamba, Agathe Kakawi et la télévision Renaissance.
Pour vos avis et suggestions, envoyez vos messages sur le numéro WhatsApp
+254 71 60 38 506. Défi de chez nous.